Cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 17 novembre 1994.
Continuons cette recherche au point de vue éthique religieuse. Ce que représente l'acte d'adoration. Alors, je vous disais, on est dans l'ordre pratique. Les exigences au point de vue prudentiel. Puisque dans l'ordre pratique, la prudence est l'analogue à la sagesse. C'est-à-dire que c'est toujours la prudence qui doit ordonner, mesurer nos activités humaines, donner cette espèce d'intention droite qui permet à l'acte d'être un acte humain et un acte qui nous rapproche de notre finalité. C'est le propre de la prudence. La prudence nous donne conscience dans l'ordre pratique que telle activité est bonne, conforme à la finalité, et nous permettant par le fait même de nous rapprocher de notre finalité et d'être unis à elle par cette opération. Dans l'ordre pratique, les traditions religieuses, quand on n'a rien d'autre, quand il s'agit du mystère de Dieu et du mystère du Créateur, la plupart des hommes, je dis bien, indépendamment de la révélation, la plupart des hommes ne peuvent pas arriver à une connaissance philosophique, métaphysique, claire. On a tous un certain sens réaliste de la philosophie, de la connaissance philosophique, je crois. On a tous ce que les scolastiques appelaient la Sainte Thérèse. La Sainte Thérèse, c'est justement l'analogue à l'axiome des principes de non-contradiction et qui nous dit qu'il faut faire le bien, éviter le mal. Parce que notre béatitude, notre bonheur, c'est de faire le bien. Et telle action est bonne, telle autre action n'est pas bonne. Oui. Et alors, au point de vue pratique, parce que ça, je crois, c'est très important. Au point de vue pratique, les traditions religieuses suffisent pour poser un acte d'adoration. Surtout les traditions judéo-chrétiennes. Et je crois, vous voyez, que ce serait très intéressant pour comprendre quelqu'un qui est à la foi juive, qui vit au milieu d'une certaine chrétienté. Pas toujours exemplaire, loin de là, mais qui connaît un peu les traditions chrétiennes. Pour un juif, les traditions chrétiennes peuvent être des traditions religieuses qui montrent que les prophéties de l'Ancien Testament sont quand même réalisées, ou au moins, point d'interrogation, sont-elles réalisées? Est-ce que le christianisme est une secte qui s'ajoute à la grande tradition juive? Ou est-ce qu'elle est dans le prolongement de la tradition juive? C'est là le problème. Ça, on ne le traite pas ici. Ça ferait partie de l'histoire des religions. Et ça ferait partie aussi, je crois, de la philosophie, dans la mesure où on essaiera d'aborder ensuite l'éthique chrétienne. C'est important de se poser la question au point de vue éthique chrétienne. et dire « Je ne vois pas, je suis mes traditions, je suis ma foi. » Mais ce que je crois très important, c'est qu'au point de vue pratique, le point de vue des traditions religieuses suffisent. Oui, c'est là où le pari de Pascal joue. Le pari de Pascal au point de vue intérieur. Appétit spirituel. remonter vers lui dans une liberté totale et en même temps avec un absolu. Je sais que je suis libre de poser cet acte et je le pose en toute liberté et en même temps comme un absolu. Et cette liberté qui va très loin, puisque je puis refuser d'adorer. Je peux suspendre mon adoration. Dire, je ne vais pas adorer. Je ne veux pas adorer. Je ne veux pas reconnaître cette dépendance. Je veux la cacher. Je veux laisser mon imaginaire s'emparer de tout cela et vivre dans le brouillard sans regarder jusqu'au bout. Donc je découvre en moi une capacité radicale de liberté. La vraie liberté, elle se découvre là. Elle se découvre à l'intérieur même de cet acte d'adoration. Voyez, la liberté, c'est-à-dire l'acte libre. Parce que la liberté, c'est un abstrait. Hein. Blanc, blancheur. Liberté est analogue à blancheur. Donc vous n'avez aucune expérience de la liberté comme telle. Vous avez l'expérience d'acte libre. Et l'acte libre, le premier dont vous avez conscience, dont vous avez expérience, c'est cet acte libre d'adoration. Parce que cet acte est radical. Il me prend dans mon esprit, dans mon intelligence, d'une manière totale. C'est mon intelligence qui a découvert l'existence d'être premier et qui permet cet acte d'amour, de respect, de soumission, de remise totale de tout moi-même à Dieu. Et cet acte-là, je l'exerce librement. Je peux adorer ou ne pas adorer. Vous voyez, c'est la liberté radicale qu'on appelle la liberté d'exercice. Analogue à l'axiome de contradiction, être, non-être, adorer, ne pas adorer. Et je découvre qu'il y a en moi cette capacité de refuser l'adoration. Donc de refuser de reconnaître pratiquement Dieu comme Père, comme Créateur. Je peux refuser. Mon intelligence peut à ce moment-là s'ériger comme principe, comme première, comme souveraine, puisque dans l'adoration, je reconnais que mon intelligence est toute relative à Dieu, parce que créée par Dieu. Que mon intelligence est remise à Dieu. Et donc, qu'il y a quelqu'un avant moi dans l'ordre de l'être. Et que je suis relatif radicalement à cet être. Et donc, mon intelligence reconnaît la vérité. La vérité, c'est que je suis totalement relatif à cet être premier, mon créateur. Tandis que si je nie que je ne veux pas adorer, je le fais tout le temps pour libérer mon intelligence, une fausse libération, et partir à ce moment-là dans l'imaginaire, c'est-à-dire en me posant comme ayant une autonomie absolue. Comme ayant en moi quelque chose d'infini et d'absolument premier. Je ne dis pas que toujours c'est conscient de cette manière-là. Je peux très bien refuser d'adorer momentanément. Je refuse à durer maintenant parce que j'ai du travail. C'est un refus. Je me sentais qu'il fallait adorer, mais je dis non, non, non. Travaillons. C'est pas un refus absolu, c'est un refus relatif. Mais ce refus va aller beaucoup plus loin. Je ne veux pas adorer, parce qu'au fond, ce Dieu que je découvre, c'est un tyran. révolte fondamentale, c'est le refus de l'attitude religieuse. Encore une fois, elle n'est pas toujours consciente, heureusement. Parce qu'il y a les propagandes anti-religieuses, et les propagandes anti-religieuses, tout simplement pour glorifier l'homme. Si vous dépendez de Dieu, vous n'êtes plus libre. Vous vous limitez vous-même, voyez, Feuerbach. C'est intéressant, à ce point de vue-là, d'étudier comment naît dans une intelligence l'athéisme. Je crois que c'est toujours le refus de l'adoration. Fondamentalement. Parce que après ce refus,
la
réalité première pour moi dans toute sa force, c'est que Dieu, l'être premier, est mon créateur. Et je le reconnais. Puisque tant que je n'adore pas l'affirmation Dieu est mon père et mon créateur, garde un certain mode abstrait. Comme toutes les vérités métaphysiques, tant qu'elles ne commandent pas une attitude affective, une attitude volontaire, et c'est à l'intérieur de cet acte volontaire que mon intelligence saisit l'être. Alors à ce moment-là, j'ai un contact d'une réalité qui me dépasse et qui me met dans la vérité. C'est évident, l'acte d'adoration ne me fait pas toucher l'existence de Dieu. Mais il me permet d'être en présence de Dieu. La seule chose que je peux avoir tant que je suis sur la terre, je ne touche pas l'existence de Dieu, mais il est présent à moi, et d'une présence tout à fait particulière que Dieu seul peut avoir pour moi, une présence qui n'est pas quelqu'un de l'extérieur, mais qui est la présence d'une source qui me porte et qui fait que je suis en contact avec cette source dans mon exister, pas dans mon intelligence, mais dans mon exister. Je reconnais donc que toute ma connaissance a un mode intentionnel, dépendant de quelque chose d'antérieur à elle, qui est cette dépendance à l'égard de l'être premier. Il y a là quelque chose que je crois très important pour nous de comprendre ce premier dépassement par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre intelligence, par rapport à notre volonté. Ce premier dépassement que nous faisons en reconnaissant que celui qui est l'être premier, celui que notre Père et notre Créateur. Vous voyez, la paternité ne suffirait pas pour comprendre cette dépendance radicale dans l'ordre de l'être. Et elle est de fait, puisque ce Créateur est Père, et ce Père est Créateur. Mais pour moi, la paternité ne suffit pas. C'est pour ça que dans l'ordre de l'être, Je suis